Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission préférée, MC Planète. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un sujet qui nous parle à tous, l'utilisation de l'énergie solaire. D'après Tristan Carrère, ingénieur à l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, le solaire photovoltaïque s'impose comme une des solutions pour produire de l'énergie avec le moins d'impact sur l'environnement. En produisant donc de l'électricité sans émettre beaucoup de CO2, en comparaison avec les autres moyens de production d'électricité.
Mais pourquoi parles-tu de CO2 ? Quel est le rapport ?
Vous avez déjà tous entendu parler de la COP21 qui s'est déroulée en 2015 à Paris. Au cours de cette COP a été mis en place l'objectif de neutralité carbone 2050, soit l'objectif d'avoir une augmentation de la température de 2 degrés Celsius maximum. Cet objectif peut être réalisé grâce au développement des énergies renouvelables et ainsi, notamment via la filière photovoltaïque. MC Planète s'engage à vous sensibiliser sur la limitation de nos émissions de carbone. L'énergie solaire se veut être une des solutions révolutionnaires quant à cette limitation, car émet très peu de CO2. En effet, le CO2 est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre. En 1997, lors du protocole de Kyoto, on a identifié trois gaz à effet de serre, qu'on appelle aussi les GES. Ces gaz vont, via certaines caractéristiques, in fine, produire une élévation des températures mondiales. Dans ces trois gaz, on retrouve donc le CO2. Pour cet épisode, j'ai l'honneur d'être accompagnée par Colomba Trub, notre experte climatologue, ainsi que Valentine Rago, à l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, et enfin, Maïwenn Vist, élève de terminale dans notre cité scolaire, qui est venue nous questionner sur ce sujet. Au cours de cet épisode, nous allons donc nous demander pourquoi nous utilisons l'énergie solaire plus que les énergies fossiles et qu'en est-il de son bilan carbone. Je vais désormais laisser la parole à Colomba Trub qui va nous introduire ce sujet en nous présentant les raisons de cette utilisation de l'énergie solaire.
Merci Daphné. En effet, l'énergie solaire est au cœur de la lutte contre le changement climatique et voit sa popularité augmenter. Mais en fait, pourquoi l'utilise-t-on ? Eh bien, l'énergie solaire est une énergie renouvelable et qui plus est gratuite. Elle se veut être moins polluante que les combustibles fossiles, n'émettant pas de gaz à effet de serre. Cette utilisation de l'énergie solaire nécessite des installations, des panneaux solaires. Ces derniers sont très avantageux, proposant une très grande capacité d'adaptation, pouvant se positionner sur les toits, entrepôts industriels inutilisés, terrains et d'autres. La durée de vie de ces infrastructures est d'environ 20 à 30 ans. Le photovoltaïque représente 96% d'émissions de gaz à effet de serre en moins que le charbon et 93% de moins que le gaz.
En effet, Colomba, on va donc s'intéresser au bilan carbone d'un panneau solaire, soit l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, directes ou indirectes, émises au cours de son cycle de vie. Pour le bilan carbone, on va mesurer en grammes équivalent CO2 par kWh l'empreinte carbone du panneau en analysant son cycle de vie. On utilise alors l'équivalent CO2, qui est une unité de mesure mise en place par le GIEC. L'équivalent CO2, c'est une façon de mesurer et calculer les effets de chaque GES sur le climat. En gros, l'équivalent CO2, pour faire un parallèle, c'est la même logique que lorsqu'on compare le PIB de pays avec des monnaies différentes. Pour avoir une base de comparaison, on utilise une monnaie de comparaison comme le dollar ou encore l'euro.
L'empreinte carbone d'un panneau solaire dépend du modèle et de l'origine de fabrication. Pour limiter cette empreinte carbone, on doit donc revenir aux bases, au cycle de vie de ce panneau solaire. Le panneau solaire n'émet pas de carbone via son électricité produite, mais pour autant son bilan carbone n'est pas nul, pour plusieurs raisons. Son transport et sa distribution en font partie. Pour réduire son empreinte, le mieux serait de le produire le plus proche possible de son lieu d'usage, le transport ayant une forte empreinte carbone. Pourtant, encore aujourd'hui, les panneaux solaires peuvent être produits et assemblés à des endroits très éloignés géographiquement. Quand on parle du cycle de vie d'un panneau solaire, on doit quand même tenir compte du recyclage. En fait, il y a 94% de ces derniers qui sont recyclés, puisqu'ils sont composés notamment de verre, qui est transformé ou réutilisé pour les emballages, d'aluminium pour le cadre, qui sont fondus pour créer des emballages, le cuivre pour fabriquer des systèmes électroniques, le silicium qui peut se recycler 4 fois pour fabriquer des nouvelles cellules photovoltaïques, et enfin le plastique, mais qui ne se recycle pas encore très bien. Il faut également prendre en compte la fabrication du panneau solaire en fait. Quel est son impact environnemental ? Eh bien, pour fabriquer nos panneaux solaires, on utilise tout simplement du silicium. Il est extrait sous forme de quartz, transformé en wafer, une surface pleine de cristaux, de silicium pour panneaux solaires, semi-conducteurs en fait. Son exploitation et sa transformation présentent toutefois des limites environnementales. La production de silicium est principalement en Chine, représentant 71% de la production mondiale. Mais cependant, cette production chinoise se repose beaucoup sur l'utilisation des énergies fossiles de ces dernières, étant des facteurs non négligeables dans l'émission de CO2. Outre le CO2, les carrières de silicium et les usines de transformation érodent fortement les sols et polluent les cours d'eau.
En bref, niveau rendement et empreinte, on en est où ? L'Agence de la transition écologique explique qu'il faut un an à un an et demi pour un panneau photovoltaïque pour produire autant d'énergie qu'il en faut pour le fabriquer. Mais plus globalement, pendant son cycle de vie, on estime qu'un panneau solaire pourra produire entre 17 et 35 fois l'énergie nécessaire à sa fabrication et son recyclage.
Au final, est-ce qu'il y a un impact environnemental ou pas ?
Comme toute fabrication industrielle, l'utilisation de l'énergie solaire via les panneaux solaires émet forcément du CO2 et a ainsi un impact environnemental, mais vous l'auriez compris, bien plus restreint qu'avec l'utilisation d'autres énergies. D'où cette utilisation et démocratisation de l'énergie solaire. Je vais désormais donner la parole à Valentine Rago qui va donc nous parler de cette utilisation de l'énergie solaire en France, en nous parlant de sa place et de ses progressions.
Et nous en France ? Comment utilise-t-on cette énergie solaire ? En France, notre utilisation de l'énergie solaire peut faire envier. Bien sûr, elle n'est pas la meilleure, mais on voit quand même des progressions. En effet, on a pu voir une augmentation de photovoltaïque de 40% dernièrement. 80% de la production mondiale des panneaux solaires proviennent de Chine. Pour autant, elle se démocratise de plus en plus en France. En France, l'énergie électrique produit moins de CO2 qu'à d'autres endroits dans le globe. Du coup, relocaliser en France réduit l'empreinte carbone des panneaux photovoltaïques. En effet, l'exploitation du silicium est encadrée par le Code de l'environnement en France. Parlons maintenant du mix énergétique français. En France, un des enjeux majeurs est d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. En 2023, les énergies renouvelables affichent une part croissante dans le mix énergétique français. Environ 20,7% de la consommation d'énergie finale brute en France. Quant à lui, le solaire ne représente que 4,9% de notre bouquet énergétique. Il faut aussi noter que le renouvelable est aujourd'hui la quatrième source de production d'énergie en France et est amené à croître très fortement. En parlant de progression, le 6 octobre 2021, la France s'est vue progresser quant à l'utilisation de l'énergie solaire en mettant en place un arrêt obligeant les installations comprises entre 100 kg et 500 kW crête, a présenté un bilan carbone inférieur à 500 kg de CO2 par kW crête.
D'ailleurs, on parle des panneaux photovoltaïques depuis tout à l'heure. Mais comment ils fonctionnent ? Un panneau solaire est conçu pour exploiter l'énergie du soleil et la convertir en électricité utilisable. Ce dernier fonctionne grâce à des cellules photovoltaïques qui, en recevant les rayonnements solaires, transforment l'énergie solaire en énergie électrique. Le courant fourni est un courant continu qui est rendu alternatif grâce à un onduleur, rendant l'énergie compatible avec le réseau qui distribuera l'énergie. La méthode photovoltaïque est la plus répandue pour capter l'énergie solaire. Le soleil émet de l'énergie via ses rayons solaires. J'ai vu en classe que, plus précisément, dans les capteurs photovoltaïques, lorsqu'un semi-conducteur, en l'occurrence le silicium, absorbe l'énergie radiative solaire, un électron de la bande de valence passe par saut quantique dans la bande de conduction. Ce gain d'énergie permet à des électrons d'être mobiles, créant ainsi un courant électrique. C'est l'effet photovoltaïque. La puissance électrique obtenue est proportionnelle à la puissance lumineuse incidente et dépend du rendement de la cellule. Celle-ci délivre une tension continue et un courant la traverse dès qu'elle est connectée à une batterie électrique par exemple.
Maintenant, nous allons parler des avancées quant au silicium et au pérovskite. Aujourd'hui, 4,2% de la production d'électricité en France provient du photovoltaïque. Mais depuis peu, des avancées sont notables. En effet, la pérovskite pourrait bien remplacer le silicium et révolutionner le marché du photovoltaïque. En plus d'être plus abondante sur Terre que le silicium, la pérovskite se veut être un meilleur conducteur d'électricité. La pérovskite absorbe un autre photon, d'une autre énergie, pour devenir conductrice. Donc en associant les deux matériaux, on absorbe plus de photons, donc plus d'énergie électrique est produite. Les cellules de pérovskite ont le potentiel de produire au moins 20% d'énergie en plus qu'une cellule en silicium. Ces cellules photovoltaïques produites à partir de pérovskites concurrencent en matière de rendement les cellules faites à base de silicium. Pour autant, on rencontre des limites à cet usage. En effet, malgré cette solution prometteuse quant au captage de l'énergie solaire, ces cellules contiennent du plomb, élément toxique pour l'environnement et pouvant nuire à notre santé. De plus, à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé de moyen d'empêcher l'eau de pénétrer dans ces panneaux, alors que le plomb s'avère être soluble dedans. La solution est peut-être d'associer pérovskite et silicium en des cellules tandem.
Mais en fait, depuis tout à l'heure, nous faisons l'éloge de l'énergie solaire et de son utilisation. Mais bien évidemment, il y a tout de même des inconvénients. En effet, les panneaux solaires ne sont pas esthétiquement les plus élégants. De plus, la place prise par les panneaux solaires, malgré leur facilité d'adaptation, n'est pas négligeable. Un panneau solaire mesure en moyenne 1,7 m² de surface. Si cette taille semble à première vue restreinte, il faut toutefois prendre en compte le fait qu'un panneau solaire est rarement installé seul. De plus, bien que très efficaces sous l'ensoleillement, les panneaux solaires ont de fortes limites. Leur rendement dépend de la météo. Ainsi, en cas de temps plus couvert, la production électrique sera très restreinte. On estime qu'ils produisent alors entre 30 et 50% de leur capacité optimale. De même, à la différence des autres formes de production d'électricité, le solaire ne peut pas produire d'électricité sur plus de 13 heures par jour, ne bénéficiant pas d'énergie solaire la nuit. D'autre part, la durée de vie d'un panneau solaire est estimée à environ 30 ans. Si cette estimation est suffisante pour avoir un rendement supérieur à ses dépenses énergétiques, cette durabilité reste tout de même très limitée et reste pour l'instant nécessaire à améliorer. De plus, si les surfaces de pose peuvent sembler être avantageuses, ces dernières posent tout de même de plus en plus de problèmes, car commencent à manquer tels que sur les immeubles neufs à toit plat, les parkings des grandes surfaces. Ainsi, les panneaux solaires présentent tout de même des inconvénients non négligeables, ainsi il est tout de même nécessaire de prendre en compte tous les critères pour établir une véritable étude de l'utilisation solaire en comparaison avec les autres énergies.
Je pense que nous avons pu aborder tous tes questionnements, Maïwenn, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, merci beaucoup.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos venues à toutes, et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast sur MC Planète.